Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Dominique Moisy, vous êtes conseiller spécial à l'IFRI, professeur au King's College à Londres. Vous avez écouté le journal de France Culture comme chaque matin, Dominique Moisy. Quelles sont les informations qui vous ont paru justement en relation avec ces séries que vous appréciez tant ?
Ben, la victoire, toute relative pour le moment, des modérés en Iran. Et ça peut évoquer une série qui s'appelle Homeland, le passage de la saison 3 à la saison 4. Dans la saison 3, vous avez une description très manichéenne de l'Iranien, cruel, vicieux. Dans la saison 4, il y a un début de réflexion sur le thème qu'est-ce qu'on a été faire dans cette galère qu'est le Moyen-Orient ? Est-ce qu'on pourrait trouver des relais ? Et il y a une sorte de description de l'évolution de la politique de Barack Obama qui apparaît à travers l'évolution de la série, comme si Obama lui-même avait contribué à rédiger le script. Ne me faites plus des héros si manichéens, pensez à l'autre. Est-ce que l'Iran peut apparaître demain comme un pilier régional de stabilité, celui que les États-Unis rêvent d'avoir depuis au moins 8 ans. Je crois que c'est beaucoup trop tôt, bien entendu, pour le dire, mais ça s'inscrit dans la réflexion de Homeland.
On écoute justement un extrait d'Homeland.
Voici Peter Quinn. Il se trouvait sur le terrain en Syrie au cours des 2 dernières années. Nous avons hâte d'en savoir plus sur votre expérience là-bas.
Le programme a été efficace, monsieur, et je pense que nous devons le continuer.
Ah oui. Assad est toujours au pouvoir et l'État islamique ne cesse de s'étendre. Les actions en Syrie vont nous mener quelque part.
Je viens de dire que oui.
Vous avez dit que le programme devrait être renouvelé. Je me demande si notre stratégie fonctionne.
Quelle stratégie ? Dites-moi quelle est notre stratégie et je vous dirai si elle fonctionne. Vous voyez, c'est là que réside le problème, parce que eux, ils ont une stratégie. Ils se rassemblent actuellement à Raqqa, par dizaines de milliers. Cachés parmi la population civile, à nettoyer leurs armes, et ils savent exactement pourquoi ils sont là.
Pour quelle raison ?
Ils appellent ça la fin des temps. Tout est dans leur bouquin. Leur foutu bouquin, le seul bouquin qu'ils aient jamais lu et qu'ils lisent tout le temps, sans jamais s'arrêter. Ils sont là-bas pour une raison. Une seule et unique raison, mourir pour le califat et entrer dans une ère sans aucun infidèle. C'est ça leur stratégie. Et c'est comme ça depuis le 7e siècle. Alors vous, vous pensez vraiment que ce sont quelques unités des forces spéciales qui vont faire la différence ?
Un extrait de la 5e saison de la série Homeland qui suit de près donc l'évolution de l'État islamique en Syrie. Et vous la citez, Dominique Moisy, dans La géopolitique des séries, le livre que vous publiez chez Stock. En quoi Homeland nous permet de comprendre la géopolitique ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'est une série israélienne, Ratoufim, prisonnier de guerre, qui décrit le retour de prisonniers. Ils ont été captifs des islamistes, ils reviennent. Mais ils sont plusieurs dans la version israélienne. Et le récit israélien est plutôt un récit tchékovien, une recherche identitaire basée sur l'interaction entre les êtres, les familles. Alors que lorsqu'on passe au niveau de la série américaine, Homeland, il y a un seul héros et il y a une héroïne qui, elle, est bipolaire. Ce qui est fascinant, on est passé de la bipolarité au sens géopolitique du terme à la bipolarité au sens clinique. Et la série américaine est moins subtile au niveau de l'analyse psychologique, mais elle dispose d'infiniment de plus de moyens, elle est spectaculaire et elle traduit le rapport de l'Amérique au monde et à elle-même après le 11 septembre 2001, bien mieux je crois qu'aucune autre analyse. C'est vraiment ce que j'appelle la domination d'une culture de peur. Qui est l'ennemi et si l'ennemi était moi-même et quand on pense où se trouvait en mon, au sein de ma propre société, puisque le héros, c'est un soldat, un GI, un marine, qui a été retourné, peut-être, par l'ennemi.
Caroline Fourest.
Si on compare Homeland à 24 heures, dont vous ne parlez pas dans le livre, mais qui est, parce qu'effectivement c'est terminé, mais il y a une évolution presque
contraire. Peut-être pour rappeler
contraire.
Ce que 24
heures, c'était
raconte.
Jack Bauer, c'était l'histoire de cet agent américain prêt à utiliser toutes les méthodes, y compris la torture, y compris
voilà, avec
en permanence.
Des polémiques sur effectivement les scènes
de la série.
Montrées dans cette série.
Et c'est vraiment la série de l'après 11 septembre immédiat qui a évolué vers la fin, vers une forme de culpabilité vis-à-vis de ces méthodes violentes et de torture. Et Homeland, c'était quasiment l'inverse. A commencé par une forme d'introspection, de cette peur d'être allé trop loin, de doute sur l'identité de l'Amérique. Et finalement, là, avec le passage de témoin entre le héros et Carrie Mathison, l'héroïne, vers la fin, comme il y a à nouveau ce nouveau danger de l'État islamique, on sent que finalement, là aussi, l'héroïne est amenée à utiliser toutes les méthodes, parce qu'elle n'a plus trop le choix, en fait. Donc ça s'est réinversé. On revient peut-être à l'immédiat après 11 septembre, avec des nuances.
Oui,
Dominique Moïsi.
Alors il y a une ambiguïté, effectivement, dans le portrait de l'héroïne, et ceci dès le début. Est-ce qu'elle sert sa nation ou est-ce qu'elle répond à ses impulsions presque personnelles? Et la série, on voit qu'elle se sert de tout, y compris de son corps. Et elle est sans scrupules et elle condamne à mort en réalité un très jeune Afghan, iranien, on ne sait pas très bien, qui va tomber sous son charme.
Alors en fait, la réflexion que vous menez, Dominique Moïsi, est double, puisque d'une part, vous dites que les séries peuvent nous aider à comprendre la géopolitique, mais les séries, elles peuvent donner aussi une certaine vision de la géopolitique, et comme aujourd'hui, elles sont très largement regardées, quelle vision donne-t-elle de la géopolitique? Je pense à Homeland, dans l'extrait qu'on vous a fait entendre, il y a une vision extrêmement millénariste de l'État islamique, une vision au terme de laquelle il n'est pas possible, par exemple, de négocier avec l'État islamique, où la seule option, en quelque sorte, est d'écraser cette force. Est-ce justifié à vos yeux? N'y a-t-il pas là un regard américain? Bref, quelle vision ces séries donnent-elles de la géopolitique?
Alors, pour écrire ce livre, qui est la suite de la géopolitique de l'émotion que j'avais écrit il y a quelques années, je suis parti de l'idée que les séries télévisées étaient devenues, au cours des 15-20 dernières années, l'équivalent de ce qu'étaient les feuilletons dans l'Europe du 19e siècle. Vous ne pouvez pas comprendre l'évolution de la société française sans avoir lu Balzac, Flaubert, Zola. Vous ne pouvez pas comprendre l'évolution du monde sans avoir vu un certain nombre de grandes séries télévisées qui sont un phénomène en plus de mondialisation. Nous regardons tous les mêmes séries, mais est-ce que nous voyons tous la même chose? Et c'est une des questions qui m'a fasciné. Je vais changer de thématique, je vais prendre la série House of Cards. Les dirigeants chinois, me dit-on, l'adorent. Parce qu'il y a une phrase culte dans cette série, la démocratie s'est sérieusement surestimée. Ils adorent ça.
On va écouter un extrait d'House of Cards.
Le président élu, Garrett Walker, est-ce que je l'apprécie?
Non.
Est-ce que j'ai confiance en lui? Là n'est pas la question. Tout politicien qui recueille 70 millions de votes touche à quelque chose de plus grand que sa personne, de plus grand que moi, même si ça me fait mal de l'admettre. Regardez ce sourire de vainqueur, ce regard confiant. J'en ai très tôt fait mon poulain et j'ai su me rendre indispensable. Après 25 ans au Congrès, j'arrive à savoir dans quel sens souffle le vent. Ah, Jim Matthews, son très honorable vice-président, ancien gouverneur de Pennsylvanie. Il a fait son devoir en nous apportant l'état clé de voûte. Merci à lui. Maintenant, ils vont le remettre au placard. Mais il a l'air satisfait de son sort, non?
Un extrait du premier épisode d'House of Cards. Frank Underwood est joué par Kevin Spacey. Le son, ou plutôt l'extrait de ce feuilleton n'est pas allé jusqu'au bout suite apparemment à un problème informatique. Mais enfin, voilà, il s'agit de camper en quelque sorte les personnages. Et donc, Frank Underwood est le chef de la majorité des démocrates au Congrès. Il nous introduit à Washington dans un monde qui est donc extrêmement cynique, Dominique Moïsi.
Mais alors, là, comme dans Homeland, le précédent est cette fois-ci une série britannique du début des années 90 qui porte le même nom, House of Cards, mais qui décrit le complot en réalité qui va mener à la fin politique de Margaret Thatcher. La série britannique était d'un cynisme, d'une sophistication extrême, mais ça restait de la politique anglaise. Quand on passe à House of Cards, c'est une critique je dirais presque universelle, de la démocratie. Et une critique qui, aujourd'hui, me semble être la meilleure des introductions à la dérive de la politique américaine. Vous cherchez une explication à Trump, Donald Trump, elle est dans House of Cards.
Laquelle ? Donnez-nous-la.
Alors, le rejet des élites, le cynisme absolu sur la politique, tous corrompus, tous pourris, sauf peut-être Donald Trump, puisqu'il est suffisamment riche pour ne pas l'être.
C'est vous qui le dites.
Ah non, raisonnement qui me paraît bien évidemment totalement faux, mais qu'expriment les soutiens de Donald Trump, et une sorte de perte de confiance totale dans toutes les institutions américaines. Donc mélange de liaisons dangereuses dans le couple Underwood, des Borgia dans la manière dont ils gèrent la politique. Enfin, on a l'impression d'être à la fin du bas empire romain. Est-ce que c'est une réflexion sur l'Amérique ?
Mais justement, on peut se poser la question, et beaucoup de gens se la sont posés d'ailleurs, pour savoir si House of Cards n'a pas plutôt instillé une idée typiquement cynique de la politique américaine, en décourageant plus encore les gens, sinon d'aller voter, du moins de prendre les politiciens comme des gens sérieux, Dominique Moïse.
Alors, c'est toute la question. Est-ce que la série reflète l'état d'esprit de la société à un moment donné, ou est-ce qu'elle contribue à encourager cet état d'esprit ? Et je pense qu'en réalité, c'est les deux. C'est les deux, c'est-à-dire que à un moment donné, vous finissez par croire que ce que vous voyez sur l'écran, c'est la réalité. Et il y a un dialogue vrai, celui-ci, entre Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis, et Kevin Spacey, l'acteur qui joue Underwood. Et Bill Clinton dit à Kevin Spacey, vous savez, 99% de ce que vous décrivez dans House of Cards correspond à la réalité. Il y a 1% qui est vraiment totalement irréaliste, c'est le fait qu'un président des États-Unis puisse passer une loi sur l'éducation en moins d'un mois. Donc il y a une sorte d'humour, et en même temps, un humour noir.
Et puis, enfin, il y a une troisième série sur laquelle vous revenez beaucoup. Cette série, c'est Game of Thrones. Et là, je pense qu'il faut tout d'abord présenter cette série aux rares auditeurs qui ne l'auraient pas regardé, Dominique Moïse.
Alors, au départ, c'est un livre d'un auteur de roman fantastique type Tolkien, George R. R. Martin. Alors, A Land of Fire and Ice, une terre de glace et de feu, qu'on a traduit en français Game of Thrones, mais c'est le trône d'acier, je crois. Donc, c'est un récit fantastique qui s'inspire de la Guerre des Roses, entre 1455 et 1485, et qui, de manière très syncrétique, mélange récits moyenâgeux, inspiration de l'antique et la Bible. Et c'est un récit qui est frappant par son extrême violence, par les scènes sexuelles qui, dans le cinéma anglo-saxon, sont totalement impensables, impossibles même, dans leur crudité ou dans leur nudité. Et c'est une série qui a pour objet de sidérer le spectateur. Le problème, c'est que le spectateur, il ne voit pas le Moyen-Âge, il voit le Moyen-Orient. Et il y a une sorte d'évocation entre la succession d'exécutions de la série et la succession d'exécutions dans le monde réel par Daesh, au point qu'on peut se demander parfois si ce n'est pas la fiction qui a inspiré les la réalité, compte tenu du fait que les jeunes de Daesh sont de grands consommateurs d'Internet et peut-être de streaming.
Mais ça rappelle tout à fait les romans gothiques qui d'ailleurs étaient publiés en feuilleton, où on a une vision extrêmement noire de l'humanité. Vous qui faites de la géopolitique, Dominique Moïse, est-ce que le pessimisme est une bonne manière d'observer les relations internationales ?
Dans le récit de George R. R. Martin, on est chez Hobbes, le Léviathan. On a l'impression, pour les mêmes raisons d'ailleurs, puisque le récit qu'il décrit est inspiré d'une guerre civile. Hobbes est inspiré de la guerre civile britannique. Il écrit après et il souhaite que la force existe pour pouvoir imposer l'ordre. Donc c'est Hobbes au temps des dragons.
Hobbes au temps des dragons, il manque une série, selon vous, que vous aimeriez en tant que spécialiste de relations internationales écrire ou contribuer à écrire, Dominique Moisy?
Mon éditeur m'a suggéré de proposer le script d'une série. Et l'humaniste qui est en moi, la personne qui veut continuer à croire en l'espoir, a repensé une série avec des héros positifs qui ne sont pas des pervers narcissiques, mais qui sont obsédés par le désir de sauver le monde. Et je parle d'une nouvelle bipolarité, d'une nouvelle relation, sans doute amoureuse, entre un espion américain et une ravissante espionne chinoise.
On continue à en parler à 8h15. Votre ouvrage « La géopolitique des séries », Dominique Moisy.